Melpa Kamateros, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice exécutive de l'organisme Le Bouclier d'Athéna Services Familiaux et vous serez l'une des panélistes demain pour cette discussion qui est lancée par la Fondation du Grand Montréal. La violence familiale, c'est le temps d'en parler. Je le rappelle, une discussion gratuite de 10 à midi. Pour débuter, Melpa, ce qui est moins évident pour moi, c'est quelle est la différence entre la violence familiale et la violence conjugale?
Alors, la violence familiale implique la violence qui a été faite dans la famille, qui peut être faite par des différents membres dans la famille. Par exemple, frère contre sœur, jeune adulte contre leur parent âgé, parent contre leur enfant, etc. La violence entre époux dans les relations intimes peut être tombée aussi dans cette catégorie, mais on préfère de l'extrapoler et de le catégoriser comme étant deux violences conjugale, qui est que de violence qui est exercée dans les relations intimes.
Donc, ce que je me rends compte, c'est que la violence familiale, ça peut venir de plusieurs membres de la famille.
Oui. Et parfois, ça peut arriver aussi dans le cas de violence basée à l'honneur, qu'il y a aussi de la violence familiale et un chevauchement aussi de la violence conjugale. Mais pour faciliter notre conversation, par exemple, on peut discuter de la violence conjugale parce que je pense que le but de la conférence de demain, c'est de parler concernant la violence qui existe dans les relations intimes.
Vous avez parlé de crime d'honneur, Melpa, mais pour vous, c'est important de rappeler que la violence conjugale, ça peut être dans tous les milieux.
Oh oui, peu importe, irrespectif des formations académiques, si on est membre d'une communauté culturelle ou de la société du écueil, peu importe leur croyance religieuse, c'est quelque chose qui était appris, c'est un comportement violent qui était appris, souvent pendant le temps où l'adulte était jeune, un jeune enfant qui, lui aussi ou elle aussi, elle a vécu tout ce type de violence dans leur famille.
Donc, c'est un facteur de risque d'avoir vécu ça dans l'enfance.
Oui, ça c'est sûr.
Oui.
Et d'interpréter ce type de violence comme une violence qui était comme un comportement normal.
Oui.
OK, alors oui, ma mère, elle a eu ce type de comportement violent par mon papa. Alors, elle avait toléré, alors moi aussi, il faut que je le tolère. Ou de l'autre côté, mon papa, il a toujours frappé maman et elle n'a dit jamais rien contre ce type de comportement. Alors, pour moi, c'est quelque chose de normal de répéter dans ma famille.
Oui. Et pourtant, il y a beaucoup d'impact sur les membres d'une famille.
Beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire que on peut penser que c'est la femme qui était le plus affectée parce que en termes de violence physique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de violence qui était exercée envers elle, mais aussi de post-traumatic stress, par exemple de choc post-traumatique. Alors, c'est bien évident pour une femme, mais pour les enfants qui sont souvent exposés à la violence conjugale dans leur famille, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre quand ils étaient jeunes et qu'ils ne peuvent pas le régler après quand ils sont plus grandes. Alors, et chez nous, on travaille beaucoup avec les femmes, les mamans, mais aussi avec les enfants, afin de les aider aussi dans leur expérience de violence conjugale.
Oui, parce que probablement beaucoup d'impact sur leur développement, sur toute la construction de l'être adulte qu'ils deviendront, sur le développement à l'école aussi, j'imagine.
Oui, oui, les enfants aussi peuvent manifester des effets dévastateurs parmi eux, par exemple l'instabilité émotive, ou sérieux problèmes de comportement. Ça peut inclure aussi, c'est ce que vous avez déjà mentionné, des problèmes d'apprentissage à l'école, etc.
Oui.
Et pour les enfants, il faut se souvenir que c'est très, très difficile pour les enfants de verbaliser. Verbaliser tout ça qu'ils ont vécu. Alors, nous, chez nous, on donne un programme qui s'appelle Thérapie d'art, où les enfants peuvent mettre dans une petite dessin leurs émotions, comment ils ont vu la situation de violence, parfois qu'ils se trouvent au milieu de cette expérience de violence. Alors, c'est très, très intéressant. Mais c'est ça, il ne faut pas travailler seulement avec les femmes, il faut essayer de travailler aussi avec les enfants. Mais je peux vous dire aussi, en termes de santé, ça peut arriver aussi que pour les abuseurs, pour les agresseurs, il y a souvent des problèmes de santé aussi qui étaient associés avec leur perte de contrôle, quand on est mis en colère. On parle pour le cycle de violence, on parle pour un cycle qui se répète très souvent et parfois la dernière phase d'un cycle de violence, c'était le meurtre de la femme, les enfants et aussi le suicide de l'agresseur. Alors, il y en a des retombées partout.
Oui, et c'est important d'en parler. C'est un petit peu ce que veut faire la Fondation du Grand Montréal en proposant cette discussion. C'est une façon de faire de la prévention aussi, Melpa, j'imagine.
Mais nous, on croit beaucoup sur la prévention. En tout cas, nous avons développé un volet de département de sensibilisation depuis le début, depuis 1994. Et on fait chaque année des sessions de sensibilisation, de prévention partout, aux écoles, dans les centres communautaires, partout, parce qu'on croit, beaucoup sur l'éducation des gens, sur l'éducation. Et quand on parle, on pense qu'il y a aussi des personnes qui comprennent pas la langue. Il faut faire cette sensibilisation quand on peut, en langue maternelle, ou il faut donner cette sensibilisation, cette éducation directement au cours de francisation. Alors ça, ça c'est un autre volet des choses qu'on fait aussi. Nous viendrons très souvent au cours de francisation pour donner des sessions sur la violence conjugale, sur le processus policier, sur les lois d'ici, même sur les ressources qui existent ici à Québec.
C'est important de le dire au bouclier d'Athéna, Melpin, vous faites de l'intervention dans 17 langues, si je ne me trompe pas.
Oui, presque. Ça peut parfois, on manque une langue parce qu'il y a un congé maternité avec l'intervenante ou notre interprète. Mais plus ou moins, c'est ça. Et nous avons aussi des outils d'intervention en plusieurs langues qu'on utilise avec les clientèles vulnérables quand les questions de langue se présentent. Mais ça, ce qui est important, c'était de souvenir qu'il faut donner des renseignements aux gens parce que sinon, nous n'avons pas une égalité d'accès aux informations de base. Alors, et on peut pas penser, on peut pas dire après, mais voilà, OK, pourquoi est-ce que c'est comme ça et pourquoi est-ce que les personnes n'avaient pas accédé aux bonnes ressources que nous avons? Simplement pourquoi? Parce que elles ne connaissent pas de l'existence de ces ressources.
Oui,
elles ne connaissent pas des lois d'ici. Alors, nous, comme une société, je pense, nous avons l'obligation d'essayer le plus possible de renseigner tous les gens concernant qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi les lois d'ici, qu'est-ce qu'on peut offrir aux victimes et même aux abuseurs.
Oui, oui. Et ça fait partie des besoins des familles touchées par la violence familiale d'avoir de l'information. Et en terminant, vous parliez des abuseurs, des victimes. On a parlé beaucoup des femmes et des enfants, mais pas les hommes aussi, j'imagine, parfois peuvent être victimes de violences familiales.
Oui, ça peut arriver. Je pense que les dernières statistiques démontrent que les hommes peut-être 11%.
Quand même.
Il faut que je vous dise que parfois c'est pas très facile pour les hommes aussi de se verbaliser concernant la violence parce qu'il y a des questions de honte, etc.
Je vous arrête ici, Melpa, parce que le temps file et je veux absolument redire la date 1er décembre demain de 10 à midi à l'église anglicane. La violence familiale, c'est le temps d'en parler. On mettra toutes les informations sur le site du Canal M. Oui, Melpa Kamateros, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.